chemin de perfection. Le Camino de Perfección est une œuvre de Thérèse de Jésus, mais c'est sa vie même. L'œuvre, c'est un petit livre pour les sœurs de sa fondation de Saint-Joseph d'Avila, une douzaine de femmes qui voulaient vivre la vie consacrée au Carmel dans la rigueur de la règle primitive. Elle leur enseigne un chemin de perfection qui est d'abord le sien. Le pape François introduisait l'année du 5e centenaire thérésien par un message adressé à l'évêque d'Avila le 15 octobre dernier en disant « Il est temps de marcher ». C'est une des dernières paroles de sainte Thérèse. L'image du chemin, commentait-il, peut synthétiser très bien la leçon de sa vie et de son œuvre. Elle comprenait sa vie comme un chemin de perfection sur lequel Dieu conduit l'homme de demeure en demeure jusqu'à lui. En même temps, il le met en marche vers les hommes. Le pasteur universel posait alors la question qui pourra rester en arrière-fond de notre exposé. Par quel chemin le Seigneur veut-il nous conduire sur les traces et par la main de sainte Thérèse? Nous procéderons en trois étapes de diverses importances. Une première qui rappelle quelques aspects majeurs de son itinéraire jusqu'à la rédaction du Camino en 1565-1566, une seconde qui cherchera à voir les orientations de son enseignement sur le chemin de perfection, et une dernière qui suivra son commentaire du Notre Père, où se révèlent des lois essentielles d'un parcours vers la sainteté dans l'union avec le Seigneur. Chemin. Le chemin que Thérèse enseigne est ce chemin de vérité, el camino de la verdad, celui que le Seigneur, dit-elle, a bien voulu imprimer en elle dès son enfance. Elle le dit dès le début de son autobiographie, racontant comment elle désirait jouir de Dieu comme les saintes martyrs, pour toujours, toujours, para siempre. Elle cherchait déjà le chemin vers Dieu en voulant aller au plus court, mourir pour obtenir la gloire des saints pour toujours. Chemin de vérité. Elle raconte que devant l'impossibilité d'aller se faire tuer pour Dieu par les morts, elle décida avec son frère Rodrigo de devenir ermite, donc de vivre pour Dieu seul. Elle y voit un don de Dieu, quand elle le raconte, un don qu'elle a perdu à son adolescence par la lecture d'autres livres que les vite saints, et par des fréquentations qui la retournèrent sur elle-même. Son père s'en aperçut et il l'a mis en pension chez les Augustines, où elle retrouva, grâce à une sœur, la vérité de son enfance, comme elle dit. La perspective de la récompense promise à ceux qui quittent tout pour le Seigneur, la vérité que tout n'est rien, tout ce qui passe en regard de l'Éternel, de la vie du ciel. Et c'est ainsi qu'elle retrouve petit à petit la force de se décider à adopter la vie religieuse. C'est à 20 ans qu'elle arrive à vaincre les résistances de son père, liées à son père, et à entrer au monastère des Carmélites de l'Incarnation, pensant cependant y trouver une vie moins austère que celle des Augustines de Notre-Dame de Grâce, et y faire tout de même là son salut. C'est bien dans l'esprit de l'époque. Elle est inquiète de son salut, comme l'étaient ses contemporains, et très consciente de son péché. Elle se fait violence, dit-elle, parce qu'elle craint l'enfer et préfère un temps de purgatoire, le temps de sa vie ici-bas, pour aller droit au ciel. Elle le dit dans son autobiographie au chapitre 3, 6. Mais elle ajoute « Si le Seigneur ne m'eût aidé, mes considérations n'auraient pas suffi à me faire aller de l'avant. » Vous voyez, il fallait cette grâce de Dieu, cette puissance de Dieu à l'œuvre pour animer sa liberté, comme on vient de le voir. « Il me donna le courage de me vaincre et me permit d'agir. » Voilà son chemin qui prend forme de chemin de perfection avec l'aide du Seigneur qui lui donne courage, le courage de faire la démarche coûte que coûte. Et le Seigneur lui fait alors goûter une grande joie qui dure encore quand elle écrit sa vie, la joie de la libération des plaisirs et de la parure, dit-elle encore, et la joie de la tendresse trouvée près du Seigneur. C'est au chapitre 4 de la vie. Elle va cheminer longuement avant d'aboutir à une connaissance vivante et amicale de ce Seigneur dont elle dira les miséricordes à son égard tout au long de son autobiographie. Une étape importante est sa découverte de la méthode d'oraison et de recueillement de Francisco de Osuna en lisant le troisième abécédaire. Ce fut une grande joie et, dit-elle, je me déterminai de toutes mes forces à suivre ce chemin. Vous voyez comment il y a une progression dans son cheminement. Voilà Thérèse, déterminée, qui marche sur la voie ouverte. Je me mis à rechercher des moments de solitude, à me confesser fréquemment et à m'engager dans cette voie avec ce livre pour maître. Elle se met aussitôt à s'efforcer de vivre en gardant en elle la présence de Jésus-Christ, notre bien et Seigneur. C'était là son mode d'oraison. Elle s'aide d'un livre et le Seigneur la bénit. Mais sans autre maître qui la guide concrètement, elle va manquer à Dieu, faltar a Dios, lâcher cette amitié avec lui qui lui donne sa grâce. Donc, un combat. Ce sont, au monastère de l'Incarnation, des conversations futiles, les visites de parents et amis qui aident le monastère à vivre matériellement, tel ce chevalier d'Avila qui s'attache à la voir et qui la décroche sans qu'elle en ait conscience au début, de son amitié avec le Seigneur. Alors le Christ lui apparaît au regard sévère. Elle saisit qu'elle le peine et l'offense. Alors elle veut couper la relation, mais le doute s'installe, les proches l'encouragent, elle reprend ce qu'elle appelle plus tard cette récréation pestilentielle. Autre événement, un gros crapaud la ramène à la réalité. Avec quelle sollicitude et miséricorde, dit-elle au Seigneur, vous m'avertissiez par toutes sortes de moyens, et comme j'ai mal su en profiter. Combat spirituel, donc, entre des occasions de péché qui ne semblent pas des fautes, sont même perçues comme du bien, de la charité, et qui la font dévier de son axe. Courir le danger de ne pas être en correspondance avec celui qui non seulement lui donne sa grâce, mais la sollicite à l'alliance intime. D'un côté, Dieu m'appelait, et de l'autre, je suivais le monde. On l'a déjà dit. Elle dit encore, je voulais accorder ces deux contraires, si ennemis l'un de l'autre, la vie dans l'esprit et les joies, les passe-temps du monde. C'est ce que dénonce souvent le pape François avec son charisme de jésuite devenu successeur de Pierre. C'est une des tentations constantes des fils de l'Église, et spécialement de ceux que Jésus ne cesse de poursuivre de sa miséricorde pour les appeler à une intimité telle qu'elle soit féconde pour l'Église. Le pape François disait un jour sur le combat spirituel, « Pour aller de l'avant, il faut combattre. Il faut de la force et du courage, mais c'est une très belle lutte parce qu'elle nous donne la joie que le Seigneur a vaincu en nous avec la gratuité du salut. » La mort de son père, mort du père de Thérèse, est un choc psychologique fort qui lui fait reprendre conscience, en 1543, de l'importance de l'oraison pour passer paisible et confiant dans la vie d'éternité. Mais il lui faudra attendre 1554 pour que le Christ soit finalement victorieux et la délivre d'elle-même, de sa trop grande confiance en soi, pour apprendre à se confier finalement à lui seul, ayant fait tout ce qui dépend d'elle. Le Christ a vaincu ? Oui. Un pas est fait, nous le savons, nous l'avons vu. Il vaincra à nouveau, en 1556, semble-t-il, en la détournant des amitiés humaines qui faisaient obstacle à l'union avec lui et empêchait aussi le véritable amour du prochain. C'est une faveur de Dieu. Que Dieu soit béni à jamais, dit-elle, lui qui en un instant me donna la liberté que je n'avais pu obtenir de moi-même malgré tous les efforts que j'avais fournis durant de nombreuses années. Vous voyez cette démarche, ce chemin de perfection qui se réalise progressivement avec la puissance du Seigneur. On croirait entendre la petite Thérèse dans ses paroles, mais c'est le chemin de sa mère Davila, conduite peu à peu par la miséricorde de Jésus à une intimité de plus en plus grande avec lui et un ardent désir du salut des hommes à cause même de cette connaissance d'être ainsi aimé en toute gratuité. Jésus se fait bientôt lui-même connaître plus directement quand l'Inquisition met à l'index les livres en castillan. « Sa Majesté a été pour moi le livre véritable, dit-elle, où j'ai lu ses vérités, où j'ai lu les vérités. Béni soit un tel livre qui laisse imprimer ce que l'on doit lire et faire, de sorte qu'on ne peut l'oublier. » Et oui, c'est un livre vivant, une personne qui imprime sa vérité en elle et transforme son agir. À la fin du livre de sa vie, elle raconte encore une autre faveur où elle comprend la vérité qui est l'accomplissement de toutes les vérités, dit-elle. Je compris ce que c'était pour une âme de marcher dans la vérité en présence de la vérité elle-même. Ce que j'ai saisi, c'est que le Seigneur me faisait comprendre qu'il est la vérité même. Cette vérité comprise l'a saisie littéralement à marcher dans la vérité. C'est la véritable humilité. Par soi-même, on ne peut rien au plan de la marche selon Dieu, mais la miséricorde de Dieu peut tout et elle veut nous libérer de notre esclavage et de ses enjeux mortels. Elle avait eu auparavant la vision de l'enfer qu'elle aurait mérité pour ses péchés, et l'on avait tiré un sens profond de l'amour gratuit qui l'en avait préservé, ainsi qu'une compassion immense pour les pécheurs qui risquent cette peine sans fin. Elle acquiert alors un amour capable de relativiser les difficultés de son existence et toutes les épreuves qui pourraient survenir afin d'être utile aux âmes. C'est de là qu'est née la fondation du monastère de Saint-Joseph d'Avila. Elle a voulu y vivre sa règle avec d'autres, aussi parfaitement que possible, dans la pauvreté et une plus grande solitude, afin de quitter vraiment le monde pour Dieu. Et c'est là qu'elle commence à recevoir des nouvelles des hommes qui se perdent en grand nombre dans le nouveau continent qui s'ouvre à la conquête des Espagnols. Son cœur s'ouvre aussi au récit des ravages des guerres de religion en France. On voit que son cœur s'ouvre en fait à une dimension beaucoup plus universelle. Ce qui la touche, ce sont là aussi les nombreuses âmes qui s'y perdaient, et spécialement les luthériens. Ce qu'elle sent, c'est être capable de donner 1000 fois sa vie pour en sauver une seule. C'est le propos du chemin de perfection en son tout premier chapitre. Sa marche dans la vérité du Seigneur l'entraînait à ce radicalisme évangélique et à cet amour pour les hommes qui prend le mouvement de l'amour du Christ Sauveur. Deuxième partie, chemin de perfection. Le chemin de perfection se présente comme un écrit autorisé par son confesseur, Dominique Bagnès, dominicain, sur l'oraison pour obéir à une demande instante de ses sœurs qui veulent se nourrir de son expérience et de la science qu'elle a puisée chez les personnes spirituelles. Donc vous voyez, le dessin est assez restreint. Mais ce qui jaillit d'emblée au premier chapitre, c'est cette utilité au service du Seigneur qui embrasse les grands problèmes de son temps. C'est là qu'elle prend cette décision. J'ai donc décidé de faire le tout petit peu à ma portée, c'est-à-dire suivre les conseils évangéliques aussi parfaitement que possible et tâcher d'obtenir que les quelques religieuses qui sont ici fassent la même chose. confiant en la bonté de Dieu qui ne manque jamais d'aider quiconque décide de tout quitter pour lui. Donc il s'agit, vous voyez, suivre les conseils évangéliques aussi parfaitement que possible, donc suivre le chemin de perfection de son état de vie, de la vocation où le Seigneur l'a conduite. Tâcher d'obtenir que les quelques religieuses qui sont ici fassent la même chose, c'est réaliser un chemin de perfection, non pas simplement individuellement, mais dans un engagement communautaire, dans un amour fraternel. Confiant en la bonté de Dieu qui ne manque jamais d'aider quiconque décide de tout quitter pour lui, c'est donc, selon une décision personnelle, une réponse déterminée à l'amour du Seigneur qui lui-même fait tout contribuer au bien de ceux qui se donnent totalement à lui. Véritable chemin de perfection évangélique, selon l'appel et le don reçu, qui se fera alors dans un compagnonnage qui demande tout et qui en même temps donne tout dans sa miséricorde. Cet engagement, c'est pour les hommes, pour l'Église, dans cet amour du Seigneur. Je pourrais contenter tant soit peu le Seigneur, dit-elle, et toutes ensemble vouées à prier pour les défenseurs de l'Église, pour les prédicateurs et les théologiens qui la défendent, nous aiderions dans la mesure de nos moyens, mon Seigneur, si opprimé par ceux auxquels il a fait tant de bien et qui voudraient le remettre sur la croix sans qu'il trouve où reposer sa tête. Ô mes sœurs, aidez-moi à supplier le Seigneur, c'est dans ce but qu'il vous a réunis ici. Vous voyez, la prière se fait intercession pour les hommes, dans l'amour du Seigneur, à l'écoute des mots du temps, considérés dans le mystère de la rédemption, dans l'amour que le Seigneur a pour les hommes. Alors Thérèse a des paroles de feu. Le monde est en feu. On veut condamner à nouveau le Christ, comme on dit, puisqu'on élève contre lui 1000 faux témoignages. Vous ne trouvez pas que c'est un petit peu actuel ? On veut jeter à terre son Église. Nous, mes sœurs, non, mes sœurs, nous ne vivons pas en des temps où l'on puisse parler à Dieu de choses de peu d'importance. Elle cite les affaires du monde, l'argent, les positions sociales rentables, etc. Non, les affaires de Thérèse, ce sont les affaires du Rédempteur. Son engagement est total par la prière pour l'Église. La grande cause, c'est la lutte intérieure et la prière pour obtenir à ceux qui doivent combattre le combat de l'évangélisation au cœur du monde, d'être étrangers à l'esprit de ce monde et engagés avec la force intérieure que Dieu communique à tout fouler aux pieds dans le but de guider, d'enseigner, de travailler au salut des autres. Thérèse est animée d'un souffle de vie sainte pour la sainteté des apôtres de l'Évangile. C'est là le chemin de perfection. Elle ne cesse de le désirer. Elle l'exprime en prière, dans le chapitre 3 du chemin de la perfection. « Considérez, Seigneur, que vous êtes maintenant un Dieu de miséricorde. Montrez-le à cette pauvre petite pécheresse, à cet audacieux vermisseau. Considérez mes désirs, mon Dieu, et oubliez mes actes, vous qui avez pitié de toutes ces âmes en perdition et qui favorisez votre Église. Ne permettez point que la chrétienté endure de plus grands malheurs, Seigneur. Donnez-lui dès maintenant la lumière. » Cette prière résume bien le propos et l'ardeur communicative de Thérèse en son chemin de perfection. C'est le grand souffle qui soutient tous les développements sur l'oraison et qui fait comprendre pourquoi elle commence par exposer trois choses qui sont nécessaires, dit-elle, à ceux qui prétendent suivre le chemin de l'oraison. L'une, c'est de nous aimer les unes les autres, l'amour fraternel. L'autre, le détachement de toute chose créée, pour l'attachement au seul Seigneur de la création. L'autre, enfin, la véritable humilité, qui, bien que je la cite en dernier, dit-elle, est la principale et les embrasse toutes. Il serait intéressant d'écouter les fines analyses de Thérèse sur les subtilités des défauts ou des excès pratiques en ces trois vertus, car elles empêchent elle n'empêche pas la bonne volonté de tomber dans les pièges du malin, qui ne se fait pas faute d'intervenir sournoisement et efficacement. Retenons simplement quelques affirmations plus générales. D'abord, le caractère éminemment évangélique de ces trois choses, caractérisant le vrai disciple à la suite de Jésus. C'est à cela qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples, dit Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 13, verset 35, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Cet amour que Thérèse demande, c'est celui que demandait Jésus et qui, dit-elle, imite celui qu'a pour nous le bon amant Jésus. El buen amador, Jesús. Il lui ressemble. C'est pourquoi ceux qui aiment ainsi sont si bienfaisants. Ils embrassent toutes les épreuves pour que les autres en tirent profit sans peine. C'est l'amour de Jésus qui donne sa vie pour ses amis et qui fait ainsi des disciples des amis, pour lui-même et dans l'amour mutuel. C'est l'amour parfait, spirituel, dégagé des passions, auquel exhorte à la suite du Seigneur Thérèse elle-même. Ensuite, le détachement. Le détachement des biens est ce qui est demandé au jeune homme riche comme condition de suite de Jésus dans le chemin de perfection. Si tu veux être parfait, va, vends tes biens, puis viens, suis-moi. C'est pour Thérèse la clé du passage de la vie appuyée sur ses forces avec l'aide de Dieu, première phase, à celle où il prend lui-même la direction en demandant le renoncement complet à toute chose et le don absolu de soi. Deuxième phase. Thérèse déclare, au chapitre 8 du chemin de la perfection, le détachement qui doit être le nôtre, tout en dépend s'il est parfait. Et elle exhorte au chapitre 2, ressemblons en cela à notre roi qui n'eut d'autre maison que l'étable de Bethléem où il est né et la croix où il est mort. Le raccourci de la vie de Jésus dit combien cette pauvreté est christologique. Elle s'étend en fait à tout son abaissement décrit par Paul aux Philippiens, où Jésus s'est humilié en obéissant jusqu'à la mort de la croix. Thérèse y reviendra plus tard. La pauvreté devient alors une pauvreté spirituelle et s'exprime en véritable humilité, elle aussi à l'image du Christ. Nous avons vu que c'est ainsi que Thérèse parle de marcher dans la vérité en laissant Jésus lui-même imprimer en elle ce qu'il veut voir réalisé en nous à sa ressemblance. Ce dernier trait, la véritable humilité, le principal en un sens, nous amène à souligner le réalisme spirituel et humain qui est prôné dans le chemin de perfection. Réalisme de l'homme en marche vers la perfection de l'amour manifesté en Jésus, cet amour manifesté en Jésus, et qui demande de recevoir le don du Christ, la puissance de sa grâce, de sa vie de ressuscité, pour être capable d'espérer, dans les conditions de notre existence marquées par le péché, autre réalisme de notre humanité, marcher jusqu'au bout pour boire à la source divine. Nous l'avons vu dans la conférence précédente. Ce réalisme spirituel est vérité sur toute chose, sur les autres, sur les biens, sur soi-même. Dominer tous les biens du monde dont on perd le souci, c'est trouver une liberté d'esprit, ne pas s'arrêter aux ombres. C'est surtout trouver la vérité vivante, non seulement sur l'homme, mais sur sa relation à Dieu. Entrer dans une disponibilité intérieure qui rend apte à recevoir le don de Dieu, tel qu'il veut lui-même nous l'octroyer, selon ses desseins. C'est le fondement le plus objectif de l'expérience liée à l'appel à la sainteté et celui de l'humilité qui permet de la réaliser par pure grâce. Jésus lui-même enseignait de ne pas choisir sa place en Luc 14, 7 à 11. Ce serait là une drôle d'humilité, s'exclame Thérèse dans le chemin de perfection. Ajoutant, considérez que la véritable humilité consiste beaucoup à être très bon, très prompt à nous satisfaire de ce que le Seigneur veut faire de nous et à nous trouver toujours indignes d'être appelés ses serviteurs. Il s'agit donc d'être à lui, prêt à recevoir la contemplation quand et comme le Seigneur la donnera, chantant avec Thérèse, « Je suis vôtre, pour vous je suis né, que voulez-vous faire de moi ?» Cette disponibilité, chantée par Thérèse, n'est pas simple passivité, mais don de soi qui provoque le don de Dieu. Car ce roi ne se donne qu'à qui se donne à lui tout entier. Ce don résume toute la sève du chemin de perfection, dit le père Marie-Eugène dans « Je veux voir Dieu ». Il cite Thérèse disant « Par là, nous nous disposons à arriver promptement au terme de notre chemin et à boire l'eau vive de la source dont nous avons parlé. » Le don de soi est si important à réaliser, à la réalisation du chemin de perfection. Boire l'eau vive de la source, cette source d'eau vive, c'est celle dont le Seigneur dit à la Samaritaine que celui qui en boira n'aura plus jamais soif, dit Thérèse, au chapitre 19e du chemin de la perfection. Un chapitre très important puisqu'il donne la perspective globale du chemin de perfection. Thérèse connaît cette source d'eau vive depuis son enfance avec le tableau familial représentant Jésus au puits de Jacob avec cette parole de la femme « Seigneur, donne-moi de cette eau ». Ce désir a grandi avec elle pour signifier le don de la vie de Dieu reçu dans la prière contemplative. Cette aspiration anime tout le chemin de perfection. Le livre, comme aussi la vie même de Thérèse. Car elle a appris progressivement que cette soif est un dynamisme foncier du chemin vers la perfection de l'amour. « Combien l'âme désire brûler de cette soif » dit-elle encore au chapitre 19 du chemin de perfection. « Et lorsque Dieu étanche cette soif, dit-elle encore, la plus grande grâce qu'il puisse faire à l'âme, c'est de la laisser encore tout altérée. » Ainsi, elle éprouve un désir toujours plus grand de boire de nouveau de cette eau. On voit le dynamisme dans le chemin, dans la marche vers la source d'eau vive. Et oui, de fait, on ne peut épuiser la source. Elle est céleste, dit Thérèse. C'est le Christ Jésus lui-même. C'est Dieu même habitant dans le cœur de l'homme racheté. Thérèse en est persuadée. Voyez, le Seigneur invite tout le monde. Elle est persuadée que c'est pour tout homme qui croit. Le Seigneur invite tout le monde. Il est la vérité même. On ne peut donc en douter. Je vous donnerai à boire, dit-il. Il pourrait dire, venez tous, car enfin vous n'avez rien à perdre, et je donnerai à boire à qui me semble bon. Mais puisqu'il a dit, sans restriction, qu'il nous appelle tous, je tiens pour certain que tous ceux qui ne resteront pas en chemin ne manqueront pas de cette eau vive. » Il faut recueillir ces affirmations pleines de son expérience contemplative. Avec cette affirmation finale, « Plaise au Seigneur de nous donner la grâce de la chercher comme il faut la chercher, puisqu'il nous la promet au nom et par la puissance de sa majesté. » Nous sommes ici à pied d'œuvre, pour voir avec Thérèse comment la chercher, cette eau vive, la demander, la cultiver au fil du chemin de notre vie de sanctification, en abordant son commentaire du Notre Père, sa manière de parler de l'union à Dieu qui se fait par grâce contemplative et prend effet dans toute la vie et l'activité de l'homme. Chemin de perfection. Nous en arrivons donc à cette troisième partie, le Notre Père qu'elle commente dans tous les derniers chapitres. Ne pas croire que c'est un commentaire biblique de la prière de Jésus. Thérèse prend chacune des demandes, mais n'en exprime que ce qui lui permet d'aider ses sœurs à boire à cette fontaine de vie qu'elle a découverte et cela par le chemin de la prière, de la oración. Pour elle, pas de sainteté sans cette amitié avec le Seigneur. C'est un chemin royal pour le ciel, librement ouvert pour un voyage divin, dit-elle encore. C'est au chapitre 21 du chemin de perfection. C'est le chemin du roi lui-même, Jésus. Et c'est aussi celui du vrai serviteur qui vit conformément à lui, celui de tous ceux qui furent des saints. Prier pour Thérèse, ce n'est pas seulement faire un exercice spirituel, c'est, comme le dit le préposé général des Carmes pour lancer le 5e centenaire le 15 octobre 2010, l'expression d'une âme en santé. Prier, vous voyez, la prière, l'expression d'une âme en santé, d'un corps qui respire librement et reçoit l'énergie de sa source de vie, le Christ. C'est l'expression normale de l'âme croyante. Quelle est donc la perfection à laquelle tend le chemin de Thérèse ? C'est celle de dire en vérité « Notre Père qui est aux cieux ». Notre Père qui est aux cieux, il s'agit d'aimer, de retourner vers lui, en comprenant qui est ce Père et qui est celui qui nous a enseigné cette prière, affirme Thérèse avec force. Il s'agit encore de rester près du Maître qui l'a enseigné. Toutes ces expressions de Thérèse au chapitre 24 du chemin montrent que c'est une oraison mentale. Car pour elle, cette oraison mentale, elle est inséparable d'une prière vocale bien faite. 24.6. Thérèse exhorte ainsi à se retirer avec son Dieu dans son paradis intérieur. C'est au chapitre 29.4. Il suffit que nous comprenions que nous sommes avec lui et ce que nous demandons. Que nous comprenions son désir de nous l'accorder et de quel cœur il reste avec nous. On peut penser à la passion, se représenter le Fils, l'offrir au Père. Ce recueillement actif est en notre pouvoir, dit encore Thérèse. Et il peut se transformer en oraison de quiétude si Dieu en donne la grâce. Plus encore, il est très possible, dit encore Thérèse, avec son expérience, que tandis que vous récitez le Pater Noster ou une autre prière vocale, le Seigneur vous élève à la contemplation parfaite. Cette vie d'oraison, on le voit, est une seule et même expérience de l'amitié avec Dieu dans le fond du cœur. Une expérience qui grandit au fur et à mesure de cette vie de perfection. Celles qui pourront s'enfermer ainsi dans ce petit ciel de notre âme avec celui qui l'a fait, comme il a fait la terre, prendra l'habitude de ne pas regarder autour d'elle, de ne pas demeurer là où les sens extérieurs sont distraits, croyez-les en excellente voie. Elles ne manqueront pas de parvenir à boire l'eau de la source et elles feront beaucoup de chemin en peu de temps. Voilà ce que dit Thérèse au chapitre 28, numéro 5 de son chemin. Le chemin de perfection, vous voyez, c'est un chemin de prière, d'intimité vivante avec Dieu. Quel encouragement de la sainte sur ce chemin de vie sainte. Croyez-les en excellente voie, elles ne manqueront pas de parvenir à boire l'eau de la source et elles feront beaucoup de chemin en peu de temps. Ainsi s'élargit l'espace intérieur, s'acquiert une liberté toujours nouvelle, une maturité d'enfant de Dieu s'établit si on persévère dans la ferme détermination initiale. En une année, une demi-année, dit Thérèse, vous obtiendrez un résultat avec la grâce de Dieu. N'est-ce pas notre expérience dès lors que nous nous adonnons régulièrement à l'oraison ? C'est ainsi, en tout cas, que nous en arrivons à pouvoir sanctifier le nom de Dieu grâce à la venue de son règne en nous. Les deux premières demandes du Pater ne font qu'un chez Thérèse. Elle dit « Glorifier le saint nom du Père éternel, Notre petitesse nous empêche de le faire comme il se doit, sauf si Sa Majesté y pourvoit en nous donnant son royaume ici-bas. Toujours hein, cette double activité de l'homme et de Dieu. Et c'est précisément ce que Jésus a demandé pour nous, dit Thérèse, dans le Notre Père. C'est lui-même qui nous donne sa paix, la quiétude, comme à Siméon lorsqu'il l'a tenu dans ses bras, reconnaissant en lui le Fils du Père, dans l'enfant pauvre qui entrait dans son temple. C'est Thérèse qui fait cette comparaison biblique. De même, dans cette oraison de quiétude contemplative, l'âme, dit Thérèse, comprend qu'elle est près du roi qui doit la faire entrer dans son royaume, pénétrée de respect pour lui. Sa volonté seule est captive, mais elle peut communiquer avec lui. Ils se comprennent même par signes, sans parole. Belle croissance, n'est-il pas vrai, dans l'union, bien que celle-ci ne soit pas encore parfaite. La personne n'ose bouger. Elle est comme celui qui, presque arrivé au terme du voyage, se repose pour mieux reprendre sa marche. Là, ses forces redoublent, dit Thérèse. L'élan va donc se poursuivre. C'est ce que dit la demande suivante. De fait, l'âme, ainsi, en vient à affirmer avec une plus grande vérité que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il s'agit de remettre au Seigneur sa volonté propre. Thérèse sent que là aussi, ce n'est possible qu'avec cette force puisée dans la venue du règne de Dieu, dans le don du Christ. Et pourtant, tout est là. Tout ce que je vous ai conseillé dans ce livre n'a que ce but de nous amener à nous donner entièrement au Créateur, à mettre notre volonté dans la sienne, à nous détacher des créatures. C'est une condition pour parvenir au terme du chemin. Dieu ne violente pas notre volonté, dit encore Thérèse. Il prend ce que nous lui donnons, mais il ne se donne entièrement à nous que lorsque nous nous donnons entièrement à lui. Alors, ce don total que Thérèse redit volontiers un peu partout dans ses œuvres, ici, elle dit dans le livre de sa vie que nous n'en finissons pas de le faire. Dans notre faiblesse, dit-elle, dans le chemin, nous feignons souvent de ne pas comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Et pourtant, Jésus a parlé en notre nom, « Que ta volonté soit faite ». Alors, dit-elle, lorsque le bon Jésus vit notre misère, il chercha un moyen admirable de nous prouver l'amour qu'il nous porte. En son nom et au nom de ses frères, il a fait cette prière, « Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, notre pain quotidien. » Il nous donne sa présence et sa vie dans l'Eucharistie. Et Thérèse explique, « Il nous est nécessaire de considérer son amour pour stimuler le nôtre, pas une fois seulement, mais tous les jours. C'est ainsi qu'il a décidé de rester avec nous. Il voulut que le Père éternel nous l'accorde de sa propre main. Et le Père y a consenti, malgré tous les risques, toutes les offenses possibles au train Saint-Sacrement que Thérèse connaissait bien dans l'actualité de l'Église de son temps. Thérèse, elle est pleinement catholique. Elle souffre des outrages qui sont faits au Seigneur dans l'Eucharistie. Et elle croit de toute son âme à la présence vivante et vivifiante du Seigneur, à la grandeur du sacrement de la communion. Écoutons par exemple la confidence merveilleuse au chapitre 34 du chemin de la perfection. Je connais une personne, il s'agit d'elle bien sûr, qui bien que loin d'être parfaite, lorsqu'elle communiait, c'était comme si elle voyait de ses yeux de chair le Seigneur entrer dans sa demeure. Et elle cherchait à raviver sa foi, croyant véritablement que ce Seigneur entrait en sa pauvre demeure, de telle sorte qu'elle se libérait autant que possible de toutes les choses extérieures et entrait avec lui. Et même si elle ne sentait pas de ferveur,
La foi lui disait qu'il était bien là. Vous voyez cette démarche de foi, non de vision extérieure, cette entrée conjointe dans le sanctuaire du cœur. Oui, elle dit, il est notre pain. Il est à nous tous les jours. Elle dit cela en commentant l'aujourd'hui qui redouble le chaque jour de la demande du Seigneur. Et pour elle, elle le dit, c'est pour toujours. Nous le possédons ici sur terre et nous le posséderons aussi au ciel si nous savons profiter de sa compagnie. Nous savons profiter de sa compagnie sur la terre par le sacrement et par la contemplation. Car il ne reste avec nous que dans ce but, pour nous soutenir, nous sustenter, nous aider à accomplir cette volonté dont nous avons demandé qu'elle s'accomplisse en nous. Ainsi, ce sacrement est-il le viatique de notre vie, le pain céleste qui nous fait marcher dans la vie de ce temps, éclairé par la perspective d'éternité. L'enjeu, en définitive, pour Thérèse, c'est une vie toute eucharistique. C'est à cela qu'invite Thérèse, en définitive, une vie éclairée et nourrie de ce pain vivant. Et le plus bel effet qui en découle s'exprime encore dans la prière du Seigneur. Le rayonnement de l'Eucharistie se prolonge dans le pardon des offenses, car notre bon maître a vu que tout nous est facile avec cette nourriture si nous ne sommes pas en défaut, et que nous pouvons très bien tenir ce que nous avons promis au Père. En lui demandant que sa volonté s'accomplisse en nous, il lui dit maintenant de nous pardonner nos offenses parce que nous pardonnons. Parce que nous pardonnons comme nous pardonnons, ce pardon doit être effectif dans le présent de la vie. Quelles que soient les offenses, que ce soit les vétilles de la vie fraternelle ou des injures graves. Il s'agit en particulier pour Thérèse de laisser les points d'honneur si sensibles à son époque, mais qui révèlent une vanité et un orgueil à vaincre en tout temps. Il s'agit plus positivement de suivre le Seigneur. « Ô Seigneur, Seigneur !» s'exclame Thérèse. « N'êtes-vous pas notre modèle? Où avez-vous donc mis votre honneur, vous qui nous honorez? Ne l'avez-vous pas assurément perdu en vous humiliant jusqu'à la mort? Non, Seigneur, mais plutôt vous l'avez gagné pour tous. » Nous pouvons donc constater ici que l'aliment eucharistique nous permet de réaliser l'amour fraternel et l'humilité dont nous avons parlé en commençant, en étant détachés de tout, et spécialement de nous-mêmes. Voilà donc que toute la vie est illuminée par le Seigneur lui-même, et non seulement il nous apprend à prier, mais il prie pour nous. Il nous obtient la grâce de faire la volonté du Père et de pardonner les offenses. Il offre même ses réalisations par avance en notre nom, parce que lui-même est passé le premier et qu'il nous fait participer à sa vie divine. La contemplation est avec le sacrement une pénétration du mystère de la miséricorde du Seigneur qui engage aussi au pardon. Thérèse le dit quand elle s'exclame au chapitre 36, « Dieu enrichit l'âme à qui il se donne. » C'est la vérité, car bien que les faveurs soient brèves, on voit bien avec le temps combien l'âme y a gagné. Et comme le bon Jésus le sait bien, il dit « comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Au chapitre 37 du chemin de perfection, Thérèse en vient à considérer le parcours réalisé. Louons le Seigneur de la haute perfection de cette prière évangélique, bien digne d'un si bon maître et que chacun de nous peut prendre à sa manière. Je m'émerveille qu'en si peu de mots sont enfermées toute la contemplation et toute la perfection. Passons aux dernières demandes. Les derniers mots du Notre Père ne manquent pas d'importance. Pour Thérèse, il y a nécessité d'alerter et de rappeler qu'il y a un autre monde et qu'il y a des ennemis. Il y a un combat. Certes, les contemplatifs, les âmes d'oraison, attendent avec impatience le combat. Ils ne craignent jamais beaucoup les ennemis publics. Ceux qu'ils craignent, ceux qu'ils redoutent, et ils ont raison de les redouter et de demander constamment de les en délivrer, ce sont de traîtres ennemis, les démons qui se transforment en anges de lumière. Thérèse ose dire, ils boivent notre sang et ruinent nos vertus, et nous nous trouvons en pleine tentation sans nous en apercevoir. Mes filles, continue Thérèse, demandons souvent au Seigneur dans le Pater Noster de nous en délivrer, qu'on ne nous cache point la lumière et la vérité. Vous voyez comment toujours elle veut marcher dans la vérité avec celui qui est la vérité même. Mais le moyen par excellence que Thérèse, le docteur, nous conseille pour vivre ce chemin d'homme imparfait en marche vers la perfection de l'amour sans trop d'alarme, comme elle dit, dans les dangereux combats à mener, c'est, dit-elle, amour et crainte. L'amour nous fera presser le pas, la crainte nous incitera à regarder où nous posons les pieds pour ne pas tomber sur le chemin où il est facile de buter, à la façon dont nous marchons tous dans notre vie. Ainsi, nous serons bien sûrs que nous ne nous tromperons pas. Sa conclusion au dernier chapitre du chemin de perfection est dans l'Amen. Cet Amen qui achève le Pater Noster signifie, dit-elle, que puisque tout s'achève avec lui, le Seigneur demande que nous soyons aussi délivrés de tout mal pour toujours. C'est la prière de Thérèse pour elle-même et pour ses sœurs. Et c'est celle qu'elle doit continuer pour tous ceux qui sont en chemin, spécialement ceux qui marchent par la voie qu'elle a ouverte et qui n'est pas seulement carmélitaine. Elle est baptismale, elle est ecclésiale, elle est ouverte à tout homme qui veut vivre de la grâce de Dieu par la prière et les sacrements, dans l'amour des frères et pour leur salut, dans quelque vocation que ce soit au cœur de l'Église. Concluons. C'est Thérèse elle-même qui conclut au chapitre 42, au dernier chapitre du chemin. Le Seigneur m'a fait comprendre tout ce que nous demandons dans cette prière évangélique. Qu'il soit béni à jamais, car vraiment, jamais je n'avais songé qu'elle renfermait de si grands secrets. Et vous avez pu voir qu'elle contient tout le chemin spirituel depuis le début jusqu'au moment où le Seigneur engloutit l'âme et la fait boire abondamment à cette source d'eau vive qui, comme je l'ai dit, est au terme du chemin. Voyez, tout le chemin de sainteté jusqu'à l'accomplissement final. Le pape François, dans son message présentant le chemin de Thérèse, posait la question qui peut nous rejoindre à nouveau au terme de ce parcours. Par quel chemin le Seigneur veut-il nous conduire sur les traces et par la main de Sainte Thérèse? Il en avait rappelé quatre qui résonnent fortement aujourd'hui. Le chemin de la joie, ce n'est autre que le chemin de l'Évangile, nous le savons bien. Le chemin de la prière, ce n'est autre que le chemin du baptême, de l'enfant de Dieu qui vit de l'amour de son Dieu et y répond par son propre amour. Le chemin de la fraternité, ce n'est autre que le deuxième mouvement de l'unique charité diffusée dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Enfin, le chemin de notre temps, dit le Saint-Père, dans l'actualité de la vie de l'Église au milieu du monde, prenant dans nos cœurs ses intentions et ses difficultés, surtout les enjeux de la mission de l'Église en notre temps, comme ce fut le cas de Thérèse. Le pape termine par ce souhait significatif. Espérons qu'elle contamine tout le monde, Thérèse, qu'elle communique le virus de cette hâte de sortir, parcourir les chemins de notre temps avec l'Évangile à la main et l'Esprit dans le cœur. N'est-ce pas une bonne manière actuelle de traduire Camino de Perfección? Il est temps de marcher. Je vous remercie.